vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 127. Serait-ce shakespearien avec Chantal Robillard ? Ah, mes chers amis, bonjour. Alors, je vous ai déjà raconté cette histoire d'invitation. Vous allez chez des voisins, fort sympathiques, et là, vous vous apercevez qu'il n'y a rien, aucun bouquin, aucune étagère encombrée de piles de livres, des murs vides, même pas quelques volumes entre deux bibelots. Et sauf s'ils lisent des livres numériques, vous vous dites que c'est un petit peu bizarre. Et aujourd'hui, pas de hasard, bonjour Chantal Robillard.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors, vous êtes écrivain, une dame de culture, une poète, une vedette, peut-être une championne d'Internet, en Alsace, une prophète. Vous avez quitté les volcans hors du charnier natal du Massif central, en pleine tempête, pour l'Alsace coquette.
Oh.
Et pour une raison qui n'est pas secrète, puisque vous êtes officier des arts et lettres, et vous êtes conservateur en chef honoraire des bibliothèques à la Direction régionale de l'action culturelle. Alors, est-ce que la chef des bibliothèques, c'est la sublimation de... Alors, non, mais d'abord, je vais vous poser une question. On dit écrivain ou écrivaine ?
Moi, je tourne la chose. Je dis poète et nouvelliste.
Et
voilà. Poète et nouvelliste.
Ah, nouvelliste.
J'écris des nouvelles.
Voilà, d'accord.
Essentiellement des nouvelles et des poèmes.
Parce que l'Académie française ne féminise pas le mot écrivain, mais...
Autrice existe de plus en plus. Autrice.
Oui.
Mais autrice, c'est comme dire bibliothécaire,
autrice,
par exemple.
Fait...
C'est général.
C'est triste.
On peut être auteur ou autrice de plein de choses.
Oui.
Hein.
Non,
alors que moi, c'est plus précis. Donc, j'écris des nouvelles, je suis nouvelliste. J'écris des poèmes, je suis poète. Bon, normalement, je devrais dire poétesse, mais c'est pas très joli, donc je préfère dire poète.
Alors, chef des bibliothèques. Ah oui, non, mais je l'ai lu, hein, c'est votre titre officiel.
Oui, en chef, oui.
En chef, ah, c'est en chef.
En chef,
ouais. Ah, oui, ah oui.
C'est un titre, hein, conservateur
titre.
En chef. C'est
conservateur
quand
en
on
chef.
Est monté en grade, voilà on est conservateur en chef.
Lieutenant et lieutenant-colonel, voilà, c'est
voilà.
Ça. Alors, est-ce que c'est la sublimation de Umberto Eco, dont la bibliothèque personnelle contenait 50 000 livres, ou alors, mon préféré, Jorge Luis Borges et son poème... la bibliothèque de Babel, vous savez, une bibliothèque infinie avec des livres qui faisaient tous 410 pages et tous écrits avec une combinaison infinie des 26 lettres de l'alphabet.
Alors ça, c'est de l'alphabet latin.
De l'alphabet latin.
Il y a d'autres alphabets,
Ah oui.
Et puis, il y a d'autres alphabets.
Voilà. Alors, on en parlera un autre jour. J'écris un livre de 1313 mots et chaque mot est composé de 13 lettres. Et chaque lettre est composée par des gens, 1313 personnes, qui lancent un dé avec les 26 lettres de l'alphabet. Et ça fait aussi un roman qui ne signifie strictement rien. Alors Chantal Robillard, vous avez combien de livres chez vous ?
C'est difficile, je viens justement d'emporter en boîte à livres une bonne cinquantaine. J'en ai dans toutes les pièces, hein, y compris les toilettes, ce qui étonne beaucoup d'ailleurs les visiteurs qui
d'habitude,
viennent pour la première fois.
D'habitude, on met les BD aux toilettes.
Non, les BD, elles sont à la cave.
Vous avez
mais
Kierkegaard
rien...
aux toilettes ?
Non, j'ai pas beaucoup de philosophes. Hein. Non, j'ai surtout,
Schauder,
des auteurs littéraires.
Non.
Par contre, j'en ai dans plusieurs langues. J'en ai en anglais, j'en ai en russe, j'en ai en bulgare, un petit peu, j'en ai en italien beaucoup.
Vous lisez le bulgare ?
Oui, il y a longtemps que j'ai plus lu, mais enfin, bon, j'ai fait Langso, donc
oui.
Mais en italien, j'en ai beaucoup, parce que j'aime bien lire dans la langue originale, et après, si je comprends pas certains mots, ben je prends un dictionnaire, hein, voilà. Ou sinon, je rachète une édition française. Par exemple, les Donna Leon, c'est une autrice une autrice de polar. Elle est américaine, elle écrit en anglais, donc je les achète en anglais, ses ouvrages. Elle écrit sur un personnage qu'elle a appelé Commissario Brunetti, et ça se passe à Venise, qui est ma ville préférée. Et donc, je les achète en anglais. Et ensuite, je les rachète en français à peu près un an et demi après. Il faut le temps que ça soit traduit.
Hein. Ah oui.
Ouais,
alors,
ouais.
Je vais vous piéger. Est-ce que vous avez lu Finnegan's Wake de Joyce en anglais?
Je déteste Joyce.
Ah oh
je n'ai jamais pu finir pas... Ulysse.
Ah oui,
oui.
Ah
non.
Mais alors, c'est génial. Parce
c'est
que
un des auteurs que je n'aime pas.
Vous n'avez pas le snobisme de dire non. J'adore Joyce.
Non, non, j'ai le snobisme de
alors,
dire que je déteste.
Finnegan's Wake.
Oui, je connais
de l'avis ouais. Des gens qui font de la littérature ou qui lisent, la traduction est meilleure que l'original.
Ah, c'est possible.
Parce qu'il invente des tas de mots, ça, mais le gars, il a mis 20 ans à traduire, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est absolument fort. Non, non,
c'est et puis il y a des textes, par
c'est
exemple,
Borgien,
les textes à contrainte, c'est difficile de les traduire dans une autre langue. Hein.
Bah, la disparition de Pérec a été traduite dans toutes les langues, mais je crois que...
Ils en ont bavé. Hein.
Ils ont pas fait avec le E, je crois, en anglais, ils ont pas fait avec le A.
Ils ont pris autre chose, que la lettre E, qui est plus significative en français que dans d'autres langues.
Le plus rigolo, c'était Boris Vian... qui faisait semblant, ça l'embêtait tellement de traduire qu'en fait, il réécrivait autre chose. J'irai cracher sur vos tombes. C'est soi-disant une traduction d'un bouquin américain qu'on lui avait donné, on ne se souvient plus du titre. Il a dit, bon, il l'a vaguement lu, il a dit, bon, allez, je réécris autrement. Puis ils ont mis traduction de Boris Vian. Mais c'est, voilà, c'est rigolo.
Et dans le genre, vous avez, alors avec le cinéma, Jean Giono, qui a écrit donc Un roi sans divertissement.
Hein, oui.
Et... ensuite, il en a fait un film dont il a fait le scénario. Il n'était pas derrière la caméra. Le film ne se termine pas pareil. Il a voulu que la fin soit différente.
Ouais, comme ça, il touche deux fois les droits d'auteur.
Ah, il est mort, donc il ne touche plus rien. Mais plus rien,
non, non.
Rien.
Rien, rien,
hein?
Voilà.
Voilà. Non, je crois que c'était une façon de ne pas refaire la même chose.
Oui.
Voilà.
Ah bah, souvent, les adaptateurs sont
oui, ils modifient,
un peu
mais là, c'est lui-même.
Oui.
Là, c'est lui-même qui a modifié son propre scénario, au fond. Et c'est intéressant. Un film en noir et blanc, en plus.
Oui.
En faux noir et blanc.
En faux noir et blanc.
En faux noir et blanc.
Pourquoi faux ?
La seule couleur, c'est le rouge.
Ah oui ?
Ils ont repeint les visages des personnages. Hein.
Oui.
Les acteurs, c'est Colette Renard et... comment s'appelait-il, Giraud? Alors, je ne sais plus le prénom de ce Giraud-là. Pas l'actuel, mais le précédent. Roland, je crois, Giraud.
Enfin, non, Roland Giraud, c'est l'actuel.
Ou alors, c'est l'autre. Voilà. Donc, les personnages étaient grimés en gris. Les toits, les tuiles étaient repeintes en gris. Tout était gris, noir, blanc, sauf le rouge du sang de la victime, puisqu'il y a un meurtre, et le rouge du noix.
Spielberg a fait la même chose dans La Liste de Schindler, où il y a une petite fille qui a une robe rouge ou un manteau rouge.
Voilà.
C'est le seul plan en couleur.
Voilà.
Voilà,
il y a aussi le film Rusty James, où là, c'est le bleu qui est la couleur.
Oui,
hein.
Oui.
C'est beau,
j'ai
Rusty
adoré.
James.
J'adore.
Voilà. Bon, on s'éloigne de la littérature, là.
Voilà. Ah. Donc, j'ai perdu la question que j'allais vous poser, mais c'était sur
les
traductions. Si, alors, justement, est-ce que vous savez qui a traduit en premier, en anglais, Madame Bovary?
Non.
La fille de Karl Marx.
Ah ouais?
Ah oui, oui, oui. Alors, elle en a fait une victime de la société,
elle a
fait un truc comme ça. Mais
en anglais,
La gouvernante de Caroline, la nièce de Flaubert... pour qui Flaubert avait une inclinaison dans l'escalier et
très
ailleurs.
Penché.
Très penché. Très penché. L'a aussi traduit. Flaubert avait trouvé que c'était bien. Il parlait mal l'anglais. Mais on a perdu le manuscrit. On ne l'a pas retrouvé. C'est dommage. Julian Barnes a essayé de le trouver et tout. Et on n'a pas. Donc la première traduction, disons, officielle, c'est la fille de Karl Marx. C'est rigolo.
Ah, oui.
Elle s'appelle Eleanor
quelque chose,
Marx, Aveling, je crois, c'est ça. Voilà, donc c'est une petite anecdote rigolote sur les traductions.
Donc,
autre chose dans vos passions, ce sont les contes de fées.
Absolument.
Hein? Et alors, peut-être pas comme Bettelheim, la psychanalyse.
Ah, mais j'aime bien Bettelheim.
Oui.
J'aime bien Bettelheim et j'aime bien, comment s'appelle-t-il celui qui a fait quelque chose de structuraliste autour des contes de fées, ça y est, j'ai plus le nom en tête. Donc moi j'aime
mais
bien,
nos
j'aime bien
auditeurs qui sont érudits sur Radio Judaïque à Strasbourg, merci Chantal Robillard, vont retrouver aisément. Et alors, pourquoi les contes de fées ? C'est votre enfance ?
Depuis toujours, oui, depuis mon enfance. J'ai toujours aimé, d'abord, j'ai toujours aimé le merveilleux. Pas le magique, mais le merveilleux, comme ça. Et puis bon, je suis née au milieu de volcans, quand même, éteints. Oui. Donc il faut les réimaginer. Il faut beaucoup d'imagination pour voir dans les volcans auvergnats actuels ce qu'étaient ces volcans il y a quelques millions d'années. Voilà, de presque rien. Voilà. Oui. Et d'une enfance assez heureuse. J'étais dans une toute petite ville et il y avait une libraire qui était absolument formidable, qui avait repéré que j'aimais lire et qui me prêtait les livres. Parce acheter, mes parents ne pouvaient pas tout acheter.
Moi, j'ai une anecdote comme ça aussi à Haguenau, la librairie Vincenti, alors je voudrais lui rendre hommage, Urscheler, qui malheureusement a fermé parce qu'il n'a pas eu de successeur. On allait chez lui et on s'asseyait. Il nous prêtait les clubs des cinq.
On
mettait une petite étiquette pour savoir où on était quand on revenait. C'était jeudi après-midi. Et parfois, on revenait, il disait « Ah, je suis vraiment désolé, je l'ai vendu. » Mais je te raconte la fin de l'histoire, c'était formidable. C'était des vrais libraires.
Et alors, les contes de fées, en fait, je les reprends. Quand j'écris, je travaille notamment sur les contes de fées ou la mythologie, pas seulement les contes de fées. Mais je les reprends parce que je systématise, c'est mon côté un peu presque oulipien, et en tout cas linguiste. Donc qu'est-ce que ça donne si Blanche-Neige, par exemple, je la fais se réveiller, il n'y a pas le prince, il n'y a pas les nains. J'invente d'autres fins.
Il n'y a pas de citrouille à la fin de Cendrillon.
Dans Cendrillon, devient une soupe au potiron, dans un de mes textes.
Ah oui, alors elle rentre en stop.
Celle-là, ça se passe dans les Maquis d'Auvergne en 44, 45.
Ah oui.
Et il y a une soupe au potiron faite par la marraine de Cendrillon.
C'est des contes de fées revisités.
Voilà, j'aime bien les revisiter et les revisiter pas systématiquement parce que ça serait sans intérêt, comment on peut pousser et surtout comment le personnage, alors on va venir au rien et à l'espace-temps, comment le personnage il peut évoluer si on le met dans une autre époque. Cendrillon, les contes de fées, il n'y a pas d'époque, vraiment, à part que, on suppose que c'est moyenâgeux.
Justement, mais voilà. C'est une histoire sur rien, et les enfants peuvent se projeter dix siècles en arrière.
Donc,
on comprend que Cendrillon n'a pas une tablette, par exemple.
Voilà.
Et on l'admet.
Donc, moi, je la transporte à Pompéi pendant l'éruption, par exemple.
Ah, c'est
la grande éruption de 79.
Au milieu des fresques un peu érotiques, non.
Non, pas du tout, mais elle est tellement traumatisée. Alors, elle survit, elle.
Oui.
Elle est dans l'île qui est Capri, maintenant.
Oui, où il n'y a pas eu des cendres qui tombaient. Voilà.
Si, il y a eu des cendres qui tombaient. Donc, elle est tellement traumatisée qu'elle passera sa vie à balayer les cendres.
C'est comme en Alsace, le samedi matin, on balaye devant sa porte sur le trottoir.
Voilà. Cendrillon, je l'envoie aussi à Venise. Et elle est suivie par un personnage dont on se dit que c'est peut-être Corto Maltese, mais
peut-être
pas.
Ulysse qui arrive de Corfou.
Juif errant.
Ah ben.
C'est le Juif errant qui la suit. Ouais.
Alors Cendrillon et le Juif errant arriver à mettre tout ça dans la même histoire et en plus
dans
à Venise.
Dans la même histoire à Venise.
Alors Chantal Robillard, bravo.
Et on les retrouve ces personnages-là, donc Cendrillon et c'est son père dans mon histoire. C'est son père, elle ne le sait pas. On les retrouve dans une Venise glacée sur Europe. Europe, non pas notre Europe, la banlieue de Jupiter, le satellite.
C'est le taureau aussi.
Oui, mais enfin bon, non. Concrètement, dans l'espace, dans notre galaxie, il y a une planète qui s'appelle Jupiter, et elle a des satellites.
Et elle n'est pas à l'Élysée, celle-là.
Europe, non. Io, Europe et quelques autres, etc. Et donc, la planète, enfin le satellite Europe est glacé. Hein. Oui. On suppose d'ailleurs que sous l'océan, il y a peut-être des choses. Donc j'ai raconté plusieurs nouvelles avec cette planète Europe. Je fais surgir un monstre dans un des textes. Et donc, je m'évenise là. Ma Cendrillon, elle va là. Et ça se termine à Torcello. Torcello, qui est une des îles proches de Venise. Oui. Mais...
C'est pas là où on fait le verre.
Non, c'est Murano.
C'est Murano.
Oui. Non, Torcello, c'est la toute première Venise. Et maintenant, il n'y a rien à Torcello.
Non, même pas une pizzeria pour touristes.
Si, il y a, juste une petite rue qui mène à la basilique. Mais sinon, c'est des champs d'artichauts, des champs... Oui. Alors qu'il y avait, dit-on, 100 000 habitants au début de la construction de Torcello.
Ah oui.
Voilà. Maintenant, il n'y a rien. Ils sont tous partis au Rialto.
Ils n'ont plus le droit, il n'y a plus de permis de construire
Ne sais pas, c'est abandonné, on va dire.
Ça donne envie de relire le livre de Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour.
Et puis, L'amance en 2000 fixe de Frutero et Lucentini.
Oui, Venise a inspiré tellement
d'écrivains. Ah oui, mais là, moi, je suis vraiment partie
mais
de leur
Kaufmann, personnage. Mais chez
Kaufmann,
c'est vraiment rien, puisqu'il arrive et la porte est fermée, il n'y a rien, il ne voit rien. Et il arrive à passer par la petite porte derrière pour voir ces églises fermées à la lampe de poche, et c'est formidable, c'est un bouquin formidable.
Venise inspire beaucoup. Mais Frutero Lucentini, moi, j'aime beaucoup. Bon, ils sont morts tous les deux, ils faisaient ce qu'on appelait le polar philosophique.
Oui. Alors, est-ce que le polar philosophique se transmet de génération en génération, comme les contes de fées.
Je ne sais pas.
Parce que les contes de fées, en fait, c'est un peu comme les prières. Hein.
Voilà.
On se les transmet aux enfants,
Oui. Je ne sais pas. Non. Eux, ils ont fait ce polar philosophique. Je ne crois pas qu'ils aient eu des... Ils sont morts il n'y a pas longtemps. Hein.
Oui.
Je ne crois pas qu'ils aient eu des émules en Italie. Hein. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Donna Leone, elle fait complètement autre chose avec ses polars. Hein. Donc... Voilà.
Alors, vous avez une autre corde à votre polar, c'est les aventures de Merlin.
Oui, alors, j'aime beaucoup Merlin. J'aime beaucoup les Chevaliers de la Table Ronde, hein, j'ai lu La Geste. J'ai écrit sur Merlin, j'ai fait écrire des auteurs et des autrices sur Merlin, sur les Chevaliers de la Table Ronde, dans une anthologie qui s'appelle Dimension Brocéliande, hein, qui a été publiée il y a quelques années, et où donc chacun donnait son point de vue, soit sur la forêt de Brocéliande, soit sur tel personnage, Arthur, évidemment, Merlin, pas trop. Hein.
Mais Merlin, j'ai lu, mais peut-être que je me suis trompé, mais je vais lire Merlin, mais que vous avez fait un truc de 6 mois en 6 mois.
Oui, c'est en train d'être publié dans quelques semaines.
Ça, c'est très péricain, s'asseyait tous les mois au même café pour décrire...
Moi, ils ne le font pas exprès, en fait. Suite des aventures de Merlin. Mon premier Merlin, c'est un polar, donc qui se passe au départ à la Drac, donc au Palais du Rhin.
Où vous avez été, je rappelle, bibliothécaire en chef.
Conseillère. Conseillère livre.
À conseillère livre.
Ah oui, c'est plus que bibliothèque. Hein, oui.
Ah, c'est plus.
Ah oui, parce que c'est toute la chaîne du livre. Hein,
ah bon. Donc vous êtes plus que colonel, vous êtes général, quoi.
On va dire amiral, allez,
amiral.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Ah, vous étiez amiral.
Non, oui,
Ah oui, d'accord. Oh là là, madame l'amiral, la rime à quoi? La rime à rien.
Voilà, rime à tout.
C'est Jacques Prévert dans Parole.
Voilà.
Formidable.
Dont j'ai l'édition originale de Parole.
Et signée par Prévert.
Non, quand même pas. Moi, j'étais toute petite, c'est mes parents qui me l'ont offert.
J'adore ces digressions. Donc, c'est Parole avec l'édition avec la couverture grise.
Oui, c'est ça.
C'est ça,
la vieille édition.
J'adore.
Années 50.
Formidable.
Donc, mon
chers auditeurs, lisez Parole de Prévert.
Voilà,
pardon,
absolument.
Agression, mon
digression.
Dieu, quel lapsus. Digression dans la digression. Donc, Merlin.
Donc, Merlin, le tout premier, c'est un roman. C'est un roman policier. Ça se passe au départ à la Drac. Il y a un meurtre. Hein, bon, enfin, le truc classique. Sauf que les personnages qui enquêtent, qui sont donc qui dépendent de l'hôtel de police de Strasbourg, c'est Merlin est commandant Et les autres, les chevaliers de la table ronde, y sont ses lieutenants, capitaines, lieutenants, enfin bon, c'est son équipe. Et je me suis amusée à transformer les personnages. C'est-à-dire que Merlin qui est chez, j'aime beaucoup Alexandre Astier et sa série Kaamelott, mais chez Astier, Merlin c'est un sombre crétin. Hein. Il est bête, il fait que des bêtises, il rate tous ses trucs.
C'est une enquête rénane ? Non.
Non, pas du tout. Pas non, du non, tout. Non, 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 Alexandre Astier.
Oui,
Kaamelott,
non,
hein,
mais votre histoire.
Non, moi, non, 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 non. Donc, c'est chez Rivière Blanche. Il est, donc, Merlin est un crétin fini chez Astier, que j'aime beaucoup par ailleurs, et donc j'aime beaucoup les personnages. Et moi, j'ai voulu que ça soit quelqu'un de bien. Donc, c'est un brave type, hein, un commandant. Arthur, donc, n'est plus roi, il est simple lieutenant. Et puis, je me suis amusée à changer certains des personnages. Lancelot, par exemple, hein, que tout le monde connaît. Moi, j'en ai fait Lancelot. Liselott Lance, voilà. Hein, Liselott.
Liselott et Jean-Marie Hummel.
Voilà. Elle avait, d'ailleurs, j'ai Hummel et Ham comme personnages.
Ah ben voilà.
J'ai Yvain et Hummel et l'autre,
Léopoldine.
Je ne sais plus. Oui. Non, j'ai pas Léopoldine. Non. Voilà. Ben, elle n'est pas dans les chevaliers. Hein.
Non.
Bon, donc, voilà, mais Hummel et Ham, ils ont des prénoms de chevaliers.
Ah ben
Gauvin
oui.
Et Yvain. Gauvin et Yvain. Ah, voilà. Donc, ça, voilà. Et puis, ces personnages... j'ai eu envie de les prolonger, d'en faire autre chose. Donc, mon Merlin, il se promène dans ce qui va sortir dans quelques temps. Hein. Et il va, par exemple, à Murbach, hein, au pied de l'abbaye de Murbach. Il lui arrive des choses, là. Voilà. Il va en Auvergne.
Alors, vous, est-ce que vous allez dans les festivals de livres, les foires du livre et
ah
tout
oui,
ça
oui, oui, oui. Bah, hier encore, j'étais à Ilfurt.
Ah bon, alors avec des piles de livres.
Oui, avec des piles.
Et donc vous avez une queue de personnes, 20
oui,
personnes devant, non,
non, non. Il n'y a pas besoin de barrière.
Non, non, parce que alors il y en a certains quand
oui,
les vedettes.
Oui, mais je suis pas assez connue pour avoir alors, plein de monde.
Ça doit être terrible d'être à côté de quelqu'un qui a une file de 50 personnes qui attendent une signature et vous faites l'expérience du rien,
oui,
c'est-à-dire que vous avez
oui.
trois copains qui viennent.
Oui, mais oui. c'est pas gênant, c'est pas...
Non.
C'est surtout gênant quand on est à côté, dans les très grands salons, à côté de quelqu'un qui fait de la BD. Parce que d'abord, ils s'étalent, hein,
ah
ils,
oui.
ils font des dessins, donc les gens, voilà.
Oui,
ça dure très longtemps pour chaque personne. Des fois, ils mettent une demi-heure à faire un dessin, donc il y a la queue derrière, et nous à côté...
Oui, vous êtes là, gentil et tout.
Voilà.
Alors, cher Chantal Robillard, nous arrivons à la fin de l'émission, mais je voudrais quand même vous parler, enfin, vous poser trois questions.
Allez-y.
Très facile. Aimez-vous la tarte au fromage ?
Ah oui, au fromage blanc.
Oui.
Oui, oui.
Bon, alors, est-ce que vous connaissez...
Pas au Munster, hein,
ah non,
la tarte
non,
au fromage blanc.
Au fromage blanc,
oui,
avec
oui.
une pointe de vanille.
Oui, et de cannelle.
Et vous connaissez la meilleure... Ah, avec de la cannelle.
Ah oui, moi j'adore la cannelle, j'en mets partout.
Ah oui, ah
ouais.
oui.
Ouais.
Alors, vanille et cannelle ensemble, du coup, la cannelle...
Ah bah, c'est l'un
la
ou l'autre.
Oui, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et donc, la meilleure, mais ça c'est le gag de notre émission, c'est la boulangerie de la rue Gaillère.
Ah
vous
n'habitez oui.
peut-être pas à côté. Donc,
non, pas du tout.
Mais un jour, si vous passez là-bas pour vous promener et tout. Alors, ensuite,
okay.
quel est votre film préféré ?
Oh là là, il y en a plein que j'aime. Il y en a plein.
Vous savez, Delphine Horvillers, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Eux », parce qu'elle pose la question aux gens en disant « Quel est votre mot préféré ?»
oui.
Et puis,
oui.
il trouve quelque chose.
Non, mais il y en a plein que j'aime dans différents
seul,
genres.
Sur une île déserte.
Ah, là, vous me posez une colle parce que...
Bon.
J'en ai tellement en tête que...
Bon, moi, je vous donne le mien comme ça.
Oui, allez-y.
C'est L'Aurore de Murnau.
Ah non, je ne connais pas.
Ah non,
non.
Et Dziga Vertov, L'homme à la caméra.
Ah non, je ne connais
non.
pas bon, du
alors,
tout. Non.
Mieux
non.
encore, c'est
non,
Chantons
non.
sous la pluie, Singing in the Rain.
oui, ah, voilà,
Singing avec
in the
la scène finale,
ouais.
Debbie Reynolds qui part. Arrêtez là, c'est elle qui a chanté et tout.
Mais
bon,
j'aime bien,
fois,
alors si, j'aime bien Crésus de Giono. Je le regarde souvent.
Ah oui.
Ah oui.
Bon, d'accord.
Ah oui, parce que c'est quand même...
D'habitude, on répond Citizen Kane pour faire un
c'est...
peu
Non, moi j'aime
non.
bien Giono, voilà. de toute façon.
Et, ensuite,
et j'aime bien Crésus parce
quel
que...
Quel est votre livre préféré ?
Ah, moi, c'est Le Petit Prince. Ah là, c'est...
Ah oui
sans...
Alors, je vais
ah,
faire
oui.
comme vous.
C'est Le Petit
avant,
Prince.
Avant, avec Joyce, je déteste Le Petit Prince.
Ah, moi j'adore.
Je déteste.
Oh
alors, je détestais tellement qu'une fois, quelqu'un bon, s'est vexé et tout, et m'a fait lire... Plein Sud, donc ça s'appelle de Saint-Ex.
Courrier Sud.
Courrier Sud.
Oui.
Courrier Sud,
oui.
et franchement, c'est bien.
Ah ben bah oui, mais c'est autre chose.
Mais le petit prince, oui. Ça dégouline de bons sentiments, je déteste.
Non, il faut le prendre
ils
au premier degré.
Ils ont l'orange, voilà, et tout. Mais
non,
une autre,
ben c'est le
voilà,
petit alien
petit renard,
qui vient
machin,
sur... Ah, ouais, mais c'est mignon. Oui, mais moi, c'est un des premiers livres que j'ai lu, Le Petit Prince.
Bon.
Donc je suis quasiment née avec Le Petit Prince.
Chantal Robillard, après les contes de fées, vous êtes ma petite princesse.
Oh, c'est gentil.
Voilà.
Et nous amiral, en plus.
Amiral, oui. Voilà, donc c'était l'épisode numéro 127 de Vous l'avez bien connu, serait-ce Shakespeare rien avec Chantal Robillard. Vous mettez le rien quelque part dans le
Robillardien,
titre.
Robillardien,
voilà. Alors, le théâtre, ça vous tente également?
Non, pas trop.
Non.
J'aime bien en regarder, mais non, en écrire, non.
Non.
Non. Que du dialogue, non. Ça
non.
Me... Non.
Ça ne vous branche pas, comme on dit. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivons notre recherche du rien avec une personne qui va prétendre connaître tout.
Ouh.
Un peu comme Pic de la Mirandole.
Oui, absolument.
Ah, voilà, un de mes auteurs préférés. Mm-hmm. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.